Eh bien, Corinne Charlie fait partie des chanteuses femmes que nous essayons de découvrir. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. Moi, je ne trouve pas ça génialissime. Enfin, si jamais vous connaissez des chanteuses, des compositrices, des interprètes qu'il serait intéressant de passer sur les ondes, n'hésitez pas à nous les faire connaître en nous écrivant Radio Zone, nom de femme, 7 boulevard Carvotte, 1205 Genève, ou bien en nous téléphonant en direct pendant l'émission au 023 50 40 51 41. Toutes les découvertes sont les bienvenues. Alors pour terminer cette émission, j'avais envie de vous faire réécouter la rencontre que j'ai eue avec des jeunes, une dizaine, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui sont dans le système scolaire genevois et qui se sont exprimés à propos du conflit du Golfe. Cette discussion, nous l'avons eue il y a 15 jours, juste avant la nuit de la paix sur Radio Zone Nom de Femme, le mercredi 13 février. Où ils ont passé leur avis, où nous avons fait entendre leur avis, mais il était fort tard et je pense qu'il serait intéressant aujourd'hui de rentendre ce qu'ils ont à dire. Bien sûr, ils n'étaient pas au courant des derniers événements, peut-être auraient-ils dit encore d'autres choses, mais ils s'expriment plus en général sur la guerre et si nous aurions pu, d'une façon ou d'une autre, à leur avis, éviter cette guerre.
Parce que c'est une guerre qui me semble assez inutile. On aurait pu l'éviter avant qu'elle commence, ça aurait été mieux parce que, évidemment, maintenant, revenir en arrière, c'est un peu difficile, même si ça a l'air d'être en train de se faire, plus ou moins, on n'est pas sûr. Je trouve que, bon, d'un côté, M. Bush aurait pu l'éviter en acceptant de faire une conférence qui réglerait tous les problèmes du Moyen-Orient. Puis, voilà, c'est ce que je pense que ça aurait été la meilleure solution.
Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord ou qui veulent... confirmé.
Moi, je pense que Bush, il a mis trop d'empressement à faire cette guerre. Il aurait pu bien attendre encore un an pour voir si le blocus allait faire son effet, parce que vraiment trop d'empressement.
Il n'y a pas de blocus. L'Iran, tous les pays qui sont voisins, ils n'ont pas fait marcher le blocus. Ils faisaient passer les marchandises clandestinement, donc il n'y avait pas de blocus. S'il y avait un blocus, pendant 6 mois, un pays ne peut pas tenir. Ils auraient tous la famine et tout. Pendant 6 mois, un pays ne peut pas tenir sans nourriture, soi-disant.
Donc tu penses que si on avait réellement respecté le blocus, on aurait pu éviter la guerre?
Je pense que les Irakiens seraient très mal en point, quoi. Mais ce n'est pas le cas.
Mais est-ce qu'on aurait pu éviter la guerre, Frédéric? C'est là la question que je vous demandais.
Difficilement. Parce que les Irakiens, vu qu'ils n'auraient plus eu à manger, ils auraient fait la guerre, eux. C'est peut-être eux qui l'auraient lancé.
Non, moi je pense pas. Je pense que chacun doit y mettre du sien. Là, il me semble que, évidemment, mon opinion est reflétée, mais il me semble que Saddam Hussein a mis du sien en proposant de se retirer du Koweït si on fait une conférence. Mais il me semble que M. Bush n'a pas mis du sien parce qu'il a absolument refusé d'entrer en matière. Simplement, il est resté sur ses positions.
Ben ouais, par exemple, là, la rencontre de la dernière chance, comme il disait Tariq Aziz et Becker, c'était une mascarade. Il y a Becker, il est arrivé avec la lettre de Bush là, qui disait « si vous en allez pas, on vous attaque ». Et ils appelaient ça des négociations. Mais comment est-ce qu'on peut négocier avec un état d'esprit pareil?
Négocier pendant 6 heures en plus avec un état d'esprit comme ça.
On se demande ce qu'ils se sont dit.
Aussi se demander quel était l'état d'esprit de Tariq Aziz hein, quand il est venu. Est-ce qu'il avait aussi envie de bouger, de changer de ses positions? Oui, bien sûr, Christophe, bien sûr.
Ils avaient un plan de paix. Il y a la conférence sur le Proche-Orient. Ils auraient très bien pu accepter, les Américains.
Donc, à entendre certains d'entre vous, il y en a qui ont une idée très précise sur qui est responsable de quoi dans cette guerre. Les autres qui ne vous êtes pas prononcés, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un qui est responsable d'avoir enclenché la guerre? Antoine, toi, tu n'as rien dit jusqu'à maintenant. Est-ce que tu vises un responsable dans le déclenchement de la guerre?
Non.
Alors tu penses qu'elle est arrivée, pourquoi? Qu'est-ce qui, à ton avis, a provoqué cette guerre?
C'est l'Irak qui a envahi le Koweït, quoi.
C'est Saddam Hussein, c'est lui qui a envahi le Koweït, c'est lui qui décide tout. Donc c'est lui qui a voulu déclencher la guerre, c'est lui qui l'a cherché, il l'a trouvé. Maintenant il va prendre un petit coup, puis c'est bon, quoi. Il aura compris, quoi. On va le remettre à sa place.
Mais je pense, de toute façon, on n'aurait pas pu l'éviter, parce que dès que Bush a envoyé ses troupes en Irak, ça aurait été impossible de reculer, ouais. Ouais, pour défendre le Koweït, je crois qu'une fois que les troupes étaient là-bas, c'était impossible d'éviter la guerre.
Carole?
Bon, alors moi je pense, bon, ils auraient pu faire un effort des deux côtés, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est des grands représentants qui décident, puis après c'est des gens qui n'ont rien décidé, qui doivent partir à la guerre, puis alors quand on pense, la dame, il est dans son bunker, il craint rien, enfin pour un moment. Je trouve c'est dommage qu'il y ait des pères de famille, des fils, tout ça, qui doivent partir à la guerre alors qu'ils n'ont rien décidé, eux.
Ouais, mais juste les Américains qui sont partis là-bas, c'est tous des volontaires. Juste.
Des volontaires à la guerre, mais pas forcément à l'armée, mais pas forcément aller à la guerre.
Ouais, bon, mais ils pouvaient s'attendre à aller se battre.
Quoi. Ouais, mais...
Ce sont des professionnels, alors si on s'engage dans une armée comme professionnel et qu'après on imagine qu'on va pas se battre, surtout quand on est aux États-Unis.
Hein. Et pour en revenir au déclenchement de la guerre, je pense que Saddam il a pas envahi le Koweït pour avoir la guerre avec les États-Unis, hein, évidemment. Que... Mais son but c'est pas de se faire massacrer par 29 nations contre une.
C'est pour avoir un débouché sur le Golfe.
Pour avoir de l'argent, pour pouvoir emmerder le monde.
Pour avoir un débouché sur le Golfe, pour avoir plus de pétrole, parce que... C'est pas vraiment normal. Les Anglais, ils ont tracé cette frontière comme ça, puis les pauvres Irakiens se sont retrouvés dépourvus de pratiquement tout leur pétrole. Ça leur appartenait avant, hein. On dit la Lituanie, tout ça, les républiques baltes. Ils veulent se séparer parce qu'ils ont été rattachés à l'URSS à la Deuxième Guerre mondiale. On trouve assez normal, enfin certaines personnes en tout cas. Et puis le Koweït, qui a été détaché plus ou moins à l'Irak, eh ben, personne ne trouve normal qu'ils veuillent le reprendre. Et puis c'est comme c'est Bush qui a déclaré la guerre, il me semble quand même que c'est lui qui a décidé de faire la guerre, c'est pas Saddam.
Ah, mais Saddam Hussein, il sait très bien qu'en envahissant le Koweït, il va déclencher la guerre. Bah, t'envahis un pays, tu vas te faire taper dessus.
Bah, les Américains, ça, ils ont pas beaucoup... Même, ça, les Américains, ils ont pas tellement laissé de décision à l'Irak, quoi.
De toute façon, cette guerre, elle a débuté dans l'intérêt du pétrole, puis maintenant, il est déversé sur tout le Golfe. Puis... Disons, c'est un peu du travail de singe, quoi.
Mais tu dis qu'il sait très bien qu'en envahissant un pays, il va y avoir la guerre. Pas du tout. Il y a énormément de pays qui ont été envahis sans qu'il y ait la guerre, hein, c'est simplement parce qu'il y a du pétrole. Et c'était peut-être pas douté que tout le monde allait réagir comme ça.
L'ONU a décidé qu'effectivement il fallait que Saddam Hussein évacue le Koweït, se retire ses troupes du Koweït. Donc les États-Unis ont saisi ce prétexte pour intervenir en disant qu'ils ne respectent pas la décision de l'ONU. Il y a des tiroirs et des tiroirs remplis de décisions de l'ONU qui ne sont pas respectées. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes?
Oui, il y a déjà Israël qui ont envahi la Palestine. Bon, l'ONU, ils ont... Je veux dire, si, ils ont... Je crois qu'ils ont quand même... ah bon. Non, mais je veux dire que... Bon, l'Israël, ils ont pas dit à l'Israël que... Ils n'ont pas dit à l'Israël qu'ils allaient faire la guerre contre eux si, ils se retiraient s'ils se retiraient pas de la Palestine.
Et puis, tout dernièrement encore, il y a eu une décision de l'ONU qui a été prise contre Israël. Ils ont dit non, on ne fera pas la punition que vous nous infligez, puis voilà quoi, c'est fini, on n'en parle plus. Donc les décisions de l'ONU...
Il y a aussi un blocus économique contre le régime de président de Klerk en Afrique du Sud qui n'a pas dû bien marcher non plus. Il y a plein de décisions qui n'ont pas été tenues.
Ce soir, on va marquer effectivement un mois de déclenchement du conflit. Il va y avoir toute une série de manifestations un peu partout dans le monde pour continuer à s'opposer à la guerre. Il y en a déjà eu beaucoup partout dans le monde, même dans les pays les plus concernés, engagés militairement, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, etc. À votre avis, est-ce que c'est une façon d'empêcher que la guerre continue que de faire des manifestations?
Non, parce que... Non, parce que je pense malgré les manifestations, ça n'empêchera pas que la guerre continue. Enfin. Non, mais c'est quand même c'est de la solidarité un peu quand même de faire des manifestations. On pense à ceux qui sont là-bas. Donc même si ça arrangera rien, c'est une preuve de solidarité.
Je pense que c'est plutôt symbolique qu'utile. Effectivement, c'est plutôt pour les gens qui sont là-bas qui n'ont pas voulu la guerre.
Mais à ton avis, le symbolique peut être une chose utile?
Je sais pas, je pense pas. Ouais, bah moi je suis du même avis. Je pense pas que ça serve à grand chose, hein, de faire des manifestations. De toute façon, Saddam et puis Bush, ils vont pas changer leur décision en pensant aux autres, quoi.
Surtout quand on voit qu'il y a des manifestations, c'est très bien, ça pourrait éventuellement ébranler l'opinion publique. Mais quand on voit que les sondages rapportent 80% à peu près, 70 à 80% pour la guerre, franchement, c'est pas quelques petites manifestations qui vont faire penser que le peuple est contre la guerre.
Ouais, mais ces manifestations, il se pourrait qu'elles s'amplifient, puis ça devienne... Si la guerre commence à se prolonger, comme au Vietnam, ben les manifestations, ça jouera un énorme rôle, parce que Si après il y a des dizaines et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue, ben, je crois que finalement ils abandonneront la guerre. Mais évidemment, il faut attendre un an avant ça. Il faudrait que la guerre dure plus qu'un an.
Mais sans vouloir être pessimiste, je crois que cette guerre, elle s'est trop amplifiée pour pouvoir y faire quoi que ce soit avec des manifestations.
Pas d'avis de la part de Frédéric. Oui, Christophe ?
Sauf que maintenant, tout le monde est bloqué un peu sur ses positions. Il y a eu dernièrement une proposition très bien de l'URSS et des États-Unis. Et puis là, c'est M. Bush, qui a absolument refusé de faire le lien entre les choses. Mais s'il veut que la guerre finisse, il faut faire le lien entre la conférence que réclame Saddam Hussein sur les problèmes du Proche-Orient et le retrait des troupes irakiennes du Koweït.
Même s'ils font une conférence, il y aura des divergences. Et les divergences, elles n'amèneront rien. Quoi. Tu fais une conférence, tu parles, mais si personne n'est d'accord, bon, ça ne va rien changer de faire une conférence. Ça va changer quoi ? De toute façon, après, il y aura les mêmes problèmes et il y aura la guerre. Ça fera qu'attiser les hostilités.
Mais pour revenir encore aux manifestations, parce que les manifestations, c'est ce que nous, on peut éventuellement faire. La conférence, hélas, effectivement, cette décision apparemment semble dans des mains qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous avez l'impression, alors si ce n'est pas les manifs, qu'est-ce que ça pourrait être ? Comment les populations, les gens qui sont contre la guerre, à votre avis, pourraient agir contre la guerre ? Si ce n'est pas des manifestations, alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Parce que, bon, on le sait, les manifestations, tu disais Anne tout à l'heure, ça n'influencera pas M. Bush et M. Hussein, mais il n'empêche que, effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure David, lors de la guerre du Vietnam, les manifestations ont quand même très certainement beaucoup influencé le règlement du conflit. Mais il est vrai, au bout de presque 10 ans, 15 ans de guerre, et nous n'en sommes qu'au premier mois de la crise du Golfe.
Mais ouais, je pense que nous, des gens comme nous, à part des manifestations, on ne peut rien faire. Pas forcément descendre dans la rue, des manifestations. Et on peut écrire, voilà, c'est aussi une manifestation dans un genre. Mais je pense qu'on peut pas faire autre chose. Hein.
Ben, là, les manifestations, ça ira peut-être un peu plus vite que pour le Vietnam, parce que justement, il y a eu un antécédent, le Vietnam. Alors après les 10 000, enfin s'il y a, hein, donc ça devient de la spéculation, mais s'il commence à y avoir 10 000 morts du côté américain, il y aura très vite des manifestations, beaucoup plus vite qu'au Vietnam, parce qu'on sait ce qui pourrait arriver après.
C'est vrai que les manifestations, c'est le seul moyen qu'on a. Car pour Saddam Hussein et George Bush, on ne compte pas beaucoup. Quoi. Finalement, on n'en a rien à dire. Quoi. On ne peut pas prendre position, que c'est impossible.
Bon, mais la Suisse, de par son attitude habituelle politique, n'est pas éminemment incluse dans le conflit, même si, pour une fois, elle a rompu sa norme de neutralité en se mettant du côté des alliés. Mais il y a des pays qui sont beaucoup plus engagés très concrètement. Bon, on parle des États-Unis, pardon, mais il y a nos voisins, les Français, qui ont aussi des troupes dans le Golfe. Et il se trouve qu'il y a un Français, Monsieur Gilles Perrault, qui a fait un appel à la désertion, qui a encouragé les jeunes Français à ne pas rejoindre les rangs de l'armée française. Est-ce que, par exemple, vous pouvez essayer de vous mettre dans la peau d'un jeune Français, si vous étiez à leur place? Est-ce que vous seriez prêt à être déserteur ou objecteur de conscience dans un cas comme celui-là? Les garçons, ça vous concerne, évidemment.
Moi, je pense que oui, bien sûr. Mais de toute façon, ils ont aussi envoyé des papiers aux Irakiens pour les inciter à déserter. Ça, je trouve que c'est des armes assez lâches, quand même. Inciter à déserter l'armée ennemie, c'est...
Ouais, non, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de jeunes Français au service militaire, le contingent, je crois qu'ils appellent ça, qui seront appelés. Alors, la question ne se pose pas encore. Personne dans aucun pays ne sera appelé, à part en Irak, mais ça...
Mais c'est logique qu'ils désertent, parce que pourquoi ils risquaient de crever pour le pétrole? Franchement, c'est pas... Surtout que...
Oui, mais tu sais que déserter en cas de guerre, c'est pas rien. Hein, je veux dire, dans certains pays, c'est même la peine de mort. Hein.
Moi, je pense que bon, l'armée française, il y a des appelés aussi. Donc, ceux-là, je pense que ceux-là, plus que les autres, ils pourraient se révolter.
Et toi, tu te sentirais prêt à le faire? Tu penses qu'il faudrait que les jeunes aujourd'hui, beaucoup, s'engagent à ça?
Ouais.
Donc je sais pas, moi ce que je dis c'est que les Français, à part ceux qui conduisent les Jaguars, qui vont faire des missions, ils ne sont pas sur le terrain, ils sont loin, loin, loin. Donc, et puis je dis aussi qu'il faut respecter les choix de son peuple. Quoi. Si le pays a décidé qu'il fallait aller en guerre, peut-être faut respecter les choix.
Tu trouves que c'est le peuple français qui a décidé d'aller en guerre?
Le peuple français, le président français qui a décidé d'aller en guerre, ben, je sais pas, ceux qui l'ont élu doivent être d'accord avec ce qu'il a décidé. Quoi.
On peut pas dire qu'il est vraiment décidé d'aller en guerre, simplement c'est pour pas se mettre à dos les États-Unis qu'il a décidé. Enfin, qu'il a décidé
il aurait pu refuser. Ah, s'il refuse,
Bon, il y aurait des problèmes avec les Américains, mais moi, si j'avais été président et que j'aurais pas envie, j'aurais pas fait la guerre.
Ouais, bah, faut quand même un sacré courage pour refuser la guerre alors que tout le bloc américain, notamment, tout l'a fait, je crois.
Mesdemoiselles, les femmes ne sont pas incluses dans l'armée suisse encore actuellement, même que certains l'imaginent, sous prétexte que les femmes réclamant l'égalité avec les hommes, elles pourraient aussi servir dans l'armée de façon égale avec les hommes. Mais il s'avère que, sous ce prétexte-là d'ailleurs aussi, les Françaises ont été admises dans l'armée, les Américaines sont admises dans l'armée. D'ailleurs, la presse s'est bien chargée de les montrer au volant de leurs avions, en train de faire le plein pour ci, etc. On les a montrées au front, on a même beaucoup pleuré sur cette dame qui s'est fait faire prisonnière par les Irakiens. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'engagement des femmes dans l'armée ?
Ben, si elles sont d'accord, je veux dire, si on ne les oblige pas, ben, pourquoi pas ? Parce que bon, ben, c'est un peu le même cas que pour les hommes, quoi. Elles vont pour leur pays, donc si le chef de leur pays a décidé, pourquoi elles ne le feraient pas ? Mais si elles ne sont pas obligées, donc. Si on les oblige, pas d'accord, quoi. Enfin, c'est un peu pareil pour les deux, quoi. Si on oblige les hommes à le faire, c'est un peu pareil.
Nadine ?
Oh, je pense que je suis d'accord avec Carole, si on ne les oblige pas, c'est leur problème. Mais la différence avec les hommes, c'est qu'un homme, il n'a pas forcément la garde d'un enfant, tandis qu'une femme, elle devrait s'en occuper en principe.
Juliette.
Ouais, bah, moi, je pense un peu comme Nadine, c'est que la femme, elle a plus de responsabilités, donc elle ne devrait pas partir, quoi, à cause de ses enfants. Mais personnellement, moi, si on n'était pas obligé, je ne me serais jamais engagée, quoi.
Mais moi, je pense que les femmes qui sont parties, c'est qu'elles n'avaient pas d'enfants, parce que sinon elles seraient restées.
N'as-tu pas vu ces images où on voit le mari avec ses enfants dans les bras aux États-Unis qui dit au revoir à sa femme qui part ?
Non, je n'ai pas vu.
Je m'excuse, messieurs, j'aimerais encore que les dames se prononcent avant que vous disiez quelque chose.
C'est vraiment abominable.
Minute. Que pensez-vous, toujours vous les filles, avant qu'on donne la parole aux garçons pour savoir ce qu'ils en pensent, que pensez-vous, vous les filles, du fait qu'on argumente de l'égalité entre les femmes pour obliger les femmes à aller dans l'armée ? Est-ce qu'à votre avis, ce serait une façon de réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes que d'intégrer les femmes dans les armées, en règle générale ?
Non, je pense pas. Enfin, on pourrait d'abord prendre une égalité moins radicale, quoi. Je veux dire, faire quelque chose de bien pour les femmes, que les femmes puissent faire quelque chose de bien que les hommes font, mais pas forcément l'armée.
Donc, messieurs, s'il vous plaît, le respect de la parole.
Parce que bon, alors les hommes, ils se disent, ouais, l'égalité des femmes, alors vite que faire un truc un peu pas terrible, donc l'armée. Puis ils oublient qu'il y a plein de choses qu'elles aimeraient faire, puis que parce que c'est des femmes, elles ne peuvent pas faire. Bah, comme des métiers, par exemple, s'il y a une femme qui veut faire routier, ben, c'est plus difficile. Ah ouais, il y en a. Alors, il y en a.
Bah, si elle veut vraiment, personne ne
l'empêche. Ouais, ben, c'est plus dur à une femme de faire routière si elle a envie que.
C'est plus dur.
Bah oui.
Bon, je m'excuse, j'aimerais pas qu'on dévie trop de notre conversation. C'est effectivement, je pense que Carole a quand même raison, c'est plus dur pour une femme de devenir chauffeur de camion.
Je suis pas d'accord.
Bon, on en parlera une autre fois, d'accord ?
Mais ça, c'est l'équipe des capacités.
Alors. Anne, Nadine et Juliette, que pensez-vous de cette façon de créer l'égalité entre hommes et femmes en intégrant les femmes dans l'armée ? Est-ce qu'à votre avis, c'est une façon de faire régner l'égalité entre les hommes et les femmes ?
Bon, moi, je pense que ce n'est pas très utile. Effectivement, il y a d'autres moyens avant celui-là. On peut les intégrer dans les métiers, répartir les tâches mieux que ça, mais en tout cas pas les mettre dans l'armée par obligation.
Juliette, tu as un avis sur la question ?
Ouais, je trouve que c'est quand même un des moyens, quoi. Parce que, ouais.
Anne ?
Ouais, moi je pense que si l'égalité, elle était vraiment égale, en fait, les femmes, elles devraient aussi être obligées, mais je pense quand même pas qu'on devrait les obliger, donc l'égalité, elle serait jamais vraiment égale.
Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette égalité existe, qui justifierait, y compris d'inclure l'incorporation dans une armée ?
Bof, non, je pense pas.
Encore une question aux dames avant de les poser aux garçons. On dit souvent que la guerre, c'est vraiment l'exemple typique de ce que sont les hommes et que les femmes seraient plus facilement pacifistes, donc contre la guerre, que les hommes. Est-ce que ça vous semble une chose vraie et juste, Carole ?
Ben, je sais pas, mais je pense que les hommes comme les femmes, on peut être sensible à ces choses et pas vouloir faire la guerre, plutôt être pour la paix. Bon, je pense peut-être que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Je sais pas.
Pourquoi, à ton avis ?
Je sais pas. Je sais pas. C'est... Ouais, bon, vas-y.
Moi, je pense qu'elles sont plus sensibles parce que comme c'est elles qui portent l'enfant, enfin, elles sentent mieux quand c'est peut-être un peu plus leur fils, quand même, qu'aux hommes.
Je pense qu'elles sont plus sensibles parce que quand on parle à une femme de la guerre, elle aura plutôt tendance à parler des familles qui sont là-bas, qui sont les victimes de la guerre, plutôt qu'à parler de la victoire d'un des deux camps.
Alors, Frédéric.
Moi, je suis tout à fait d'accord sur le point que les femmes n'ont pas leur place à l'armée. Je pense qu'on a déjà obligé les hommes à aller, pourquoi obliger les femmes ? Elles sont très utiles dans d'autres travaux. Et je dis pas ça méchamment, je pense tout à fait. Déjà, on a déjà abusé les hommes, il y a déjà une grande partie des hommes, on a déjà vu au référendum en Suisse qui ne veulent pas faire l'armée, alors pourquoi encore en plus obliger les femmes ? Par contre, j'ai entendu une remarque de Juliette là, je suis complètement opposé. Elle dit que les femmes ont plus d'importance que les hommes. C'est faux, ils ont l'égalité d'importance.
Plus de responsabilité.
Responsabilité, mais je vois pas en quoi. Bon, peut-être que les femmes elles s'occupent des enfants, mais les hommes ils ont d'autres tâches. Donc je pense que sur ce point-là, c'est un peu l'égalité.
Donc restons à propos de l'histoire de l'armée, j'aimerais bien. Hein. Messieurs, vous vouliez, il y a plein de choses à dire tout à l'heure. Christophe.
Moi, je trouve que déjà, c'est pas normal, en tout cas en Suisse, pays neutre, les hommes soient obligés d'aller à la guerre. Donc, je trouve qu'évidemment, ce ne serait pas une solution de recommencer l'erreur avec les femmes. Ça, je trouve que c'est déjà une erreur pour les hommes.
Mais en Israël, il y a le service obligatoire de, je crois, 2 ou 3 ans pour les femmes. Hein. Eux, c'est un pays extrêmement égal.
Non, mais c'est pas les seuls. Hein. Il n'y a pas qu'en Israël où les femmes sont intégrées dans l'armée. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, donc, où les femmes sont intégrées de façon obligatoire dans l'armée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela ?
Je pense que, bon, on a beau dire égalité, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que les femmes sont un peu moins fortes physiquement que les hommes. Du moins, la plupart des femmes sont un peu moins fortes physiquement que les hommes. Et comme l'armée demande beaucoup de force physique, je trouve que il y a des femmes qui peuvent rentrer parce qu'elles sont assez fortes, mais la plupart ne peuvent pas rentrer parce que
moi je suis très très faible dans ces circonstances là. Florian, tu baragouines derrière la bouche des autres. Maintenant, dis ce que tu as à dire sur la question. Ah, Frédéric.
Ce que je veux dire, c'est que les pays où il y a les femmes qui sont obligées de faire l'armée, ce sont des pays qui sont touchés très près de la guerre, comme l'Israël. Donc, c'est des pays qui ont besoin d'hommes ou de femmes pour la guerre. Donc, ils obligent les femmes. Comme en Iran, en Irak, il me semblait que pendant la guerre Iran-Irak, ils allaient chercher les enfants aussi pour aller à la guerre. Donc, ça, c'est inadmissible. On n'en parle même pas.
Antoine, tu as un avis sur la question ?
Moi je pense d'abord les femmes, ceux qui y vont volontairement à l'armée, bon, déjà ça je comprends pas déjà très bien parce que les hommes ça leur plaît déjà pas trop. Alors les femmes, je vois pas déjà comment ça peut leur plaire d'aller à l'armée, quoi. Ouais. Et puis ensuite, si on les oblige à y aller, ça c'est un autre problème, ça.
Est-ce que toi, ça te semble être une façon de créer l'égalité entre les hommes et les femmes ?
Non, pas vraiment. Non, pas. Je ne pense pas que la guerre va créer une égalité entre hommes et femmes.
Non, au contraire.
Voilà, tout à fait raison.
Parce que dans l'armée, quand les hommes, comme ils seront un peu plus forts que les femmes, j'espère que je ne m'attire pas trop de foudre. au contraire, il pourrait très bien être très macho avec les femmes, les maltraiter, et puis ça serait pas du tout positif, hein, parce qu'ils sont un peu plus forts. Ça serait pas du tout justifié, mais il pourrait le faire. Il y en a des qui seraient comme ça.
Ça va aiguiser les hostilités, ça va causer des dégâts plus forts.
Je dirais que pour qu'il y ait l'égalité entre hommes et femmes, les envoyer à l'armée obligatoirement, ce serait pas le premier point. Mais si on veut une véritable égalité, il faudrait le faire, effectivement, à la fin. Mais pas en premier lieu, forcément, c'est pas un des points principaux. Mais une véritable égalité, on fait tout la même chose. Hein.
Mais est-ce que ce que je disais comme point de départ de cette question-là, on dit souvent que la guerre est le fait vraiment typiquement masculin, parce que c'est l'usage de la violence, c'est l'usage du pouvoir sur autrui. Est-ce que ça vous semble juste qu'on dise que la guerre est le fait des hommes et que les femmes sont plus facilement pacifistes que ne le sont les hommes ?
Ce que je crois, celle qui a décidé en Grande-Bretagne d'aller à la guerre ou pas, c'est Madame Thatcher, c'est une femme, je crois. Donc,
ça, c'est un exemple très précis.
Ah
mais
oui,
moi,
mais
je te demande.
C'est la seule personne, c'est une des seules personnes qui est au pouvoir dans un des pays importants. Donc, je pense que les
qui
femmes.
Était.
Qui était. Mais elle a quand même décidé si la Grande-Bretagne était d'accord avec les États-Unis. Donc, je pense que. Bon, c'est vrai que les femmes ont plutôt un cœur plus tendre. Donc, elles sont plus aptes à décider.
Je suis pas sûr que le pacifisme soit une question de tendresse.
Ah bah quand on voit des images horribles, on a plutôt tendance à se dire que c'est horrible et à pas faire la guerre. Donc je pense que c'est un rapport.
Bah, l'autre jour, je regardais à la télévision, il y avait un interview, c'était un journaliste qui interviewait une femme, une soldate. Et puis, il lui demandait si ça lui plaisait de faire ce métier, quoi, de faire, parce qu'elle prend ça comme un métier, quoi. Alors, il lui demandait si ça lui plaisait, puis elle lui répondait oui. Donc, aussi, il faut voir, quoi. Je sais pas si... Alors, si la guerre plaît autant aux femmes qu'aux hommes, ben voilà.
Essayez de penser à vous-même au lieu de parler des autres. J'aimerais bien que vous essayiez de sentir si vous vous sentez, parce que vous êtes garçon, attiré par la guerre, et que vous avez la sensation que les filles le seraient moins parce qu'elles sont femmes. Mais quand je dis pacifiste, je crois que c'est vraiment rien à voir avec la tendresse. C'est vraiment être contre la guerre, ce qui est autre chose quand même. Hein.
Bah, personnellement, je suis contre la guerre, donc je vois mal comment une fille pourrait être plus contre la guerre que moi.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de filles qui sont pour la guerre que des hommes, mais il y a quand même des filles qui sont pour la guerre, malheureusement. Mais moi, personnellement, la guerre, j'en ai horreur.
Qu'est-ce que ça amène, la guerre? Ça amène que des misères. La mort des hommes, destruction des terrains, destruction de l'environnement, ça amène que des misères. Pourquoi faire la guerre?
La guerre, ça n'a pas de sens. Tuer des gens, pourquoi? Pour son intérêt personnel, ça n'a pas de sens, je trouve.
Ça peut éventuellement avoir un sens, mais dans le cas de la guerre du Golfe, alors là, franchement, je vois vraiment mal le sens. Surtout qu'on avait une solution toute prête devant nous pour y échapper. Puis non.
Ça, c'était la vie de jeunes de 15 ans, garçons et filles, sur le conflit du Golfe. Je m'excuse de d'écourter un tout petit peu la fin de leurs propos. Ils se prononçaient en dernier ressort sur, à leur avis, est-ce que le monde serait mieux gouverné si c'était les jeunes qui étaient au poste de décision ? Eh bien, il faut reconnaître que la plupart d'entre eux n'étaient guère optimistes, sur la façon dont les jeunes pourraient transformer, diriger autrement le monde s'ils étaient actuellement au poste de commande, et qu'ils font le constat qu'il y a beaucoup de choses à transformer et qu'il faut surtout se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, Remue Ménage aujourd'hui, c'est terminé sur Radio Zone Onde Femmes 93.8. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, où je vous propose une rediffusion d'une interview qu'avait effectuée pour nous Odette Mudry, interview de Gabrielle Nanchen. Rappelez-vous Gabrielle Nanchen, cette ancienne conseillère nationale et qui s'était beaucoup battue pour la cause des femmes, avait beaucoup surpris par son retrait soudain de cette responsabilité et qui aujourd'hui écrit, après quelques années de ce retrait, un livre qui s'appelle « Amour et pouvoir ». Odette Mudry est allée rencontrer Gabrielle Nanchen chez elle en Valais, où elle lui raconte pourquoi, comment elle a eu envie d'écrire ce nouveau livre et son contenu. Alors, la semaine prochaine, Gabrielle Nanchen, autour de son livre « Amour et pouvoir ». Nous vous rappelons que dans « Remue ménage, une femme », pendant tout l'été, vous réentendrez des émissions que nous vous avons proposées au long de l'année et que nous espérons que vous aurez plaisir à réentendre. Alors, « Remue ménage », Radio Zone 93.8, bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Yeah.